Salut Pierre.
Bruno, hier, on attendait peut-être pas la victoire voyons, pas des Falcons, mais des Titans du Tennessee, mais celle des Falcons peut-être un peu plus. Mais toujours est-il que ce sont quand même les deux équipes qui jouaient à l'étranger qui ont gagné. Ça, c'est quand même un peu surprenant.
Oui, c'est clair. Et ça démontre que, tu sais, on se bat pour l'avantage du terrain, mais à un certain moment donné, tu fais foi de tout. C'est ce que tu fais sur ce fameux terrain la journée du match. Puis on s'en est rendu compte particulièrement du côté du Tennessee, c'est-à-dire du côté de Kansas City, où les Chiefs, à cause de l'avantage du terrain, peut-être, sont arrivés sur le terrain pompés à bloc avec une foule qui les appuyait. Puis on a eu une première demi absolument extraordinaire où rien ne clochait.
Pour les Chiefs.
Alex Smith, c'est fou, là. Alex Smith a eu 231 verges en première demi. Il en a eu 33 en deuxième demi par la passe. Ça démontre un peu là, ce qui s'est passé. C'était toute beauté de voir les Chiefs aller. On voyait ça, puis on regardait Laurent Duvernay-Tardif. La ligne à l'attaque dominait le front défensif des Titans du Tennessee, qui n'est pas le premier venu, là, qui n'est pas le dernier venu, c'est-à-dire les Titans, c'était une bonne défensive avec Dick Lebeau comme commentateur défensif, puis on contrôlait ce match-là. Et moi, je pense que la blessure à Kelce, vraiment la commotion cérébrale de Kelce qui l'a sorti du match, a changé la donne. Je comprends qu'on a quand même marqué 10 points après qu'il soit sorti du match. Parce qu'on a fini la séquence où il s'est blessé, on est allé marquer le toucher, puis à la fin, on revenait avec un placement. Mais ça a changé la donne, parce qu'après ça, on a vu des alliés rapprochés être obligés de jouer. Le troisième allié rapproché de l'équipe échapper une passe très importante dans le match. C'est pas vers lui qu'elle aurait été dirigée, la passe. C'est clair que c'est arrêté vers Kelce. Et les Titans du Tennessee, eux autres, de leur côté, en deuxième demi, ont fait tout ce qu'il fallait faire pour revenir dans le match. Et puis c'est dommage pour les Chiefs, là.
Ah,
ça faisait 24 ans qu'ils n'avaient pas gagné à domicile.
En éliminatoire.
Oui, en série éliminatoire. Puis là, ils l'avaient, là, 24. C'était quoi, 21-3. On venait par 18 points.
Ouais.
On arrive en deuxième demi. Et moi je pense que, évidemment, l'absence de Kelce a nué, mais le fait qu'on n'a pas tenté de courir avec le ballon. Moi, j'ai eu de la misère à comprendre que Kareem Hunt, qui était le meilleur porteur de ballon de la NFL à l'arrivée du match, là. Je comprends que c'est une recrue, je comprends que Tennessee sont bons contre le sol, mais nous, les Chiefs arrivaient dans ce match-là avec le meilleur porteur de ballon de la Ligue et la meilleure moyenne par course de la Ligue, 4,7. Ils ont couru 5 fois en deuxième demi, alors qu'il y avait une avance de 18 points.
Puis que tu cherches à écouler le temps le plus possible.
Ben, c'est ça, tu sais, si on avait réussi à... Quand on avait couru 15 fois avec le ballon, qu'on avait réussi à écouler, je sais pas moi, 4 minutes de plus, peut-être que les Titans auraient manqué de temps à toute fin.
Je veux dire,
là, c'est sûr que je vais dans les suppositions, mais chose est claire. 11 courses pour les Chiefs, ils ont pas gagné souvent quand ils couraient juste 11 fois dans un match.
Mais il y a des choses qui sont pas des suppositions, puis c'est la situation avant le match. Tout favorisait les Chiefs. Ils avaient gagné leurs 4 matchs précédents. Il y avait un différentiel dans les revirements de plus 15. Les Chiefs avaient battu les Titans en début de saison 30-6. T'sais, tout favorisait les Chiefs, puis tout a complètement basculé en deuxième demi, comme tu dis. Est-ce que Marcus Mariota, le carrière des Titans, a joué au-dessus de sa tête en deuxième demi?
Ben écoute, il a fait des très belles choses, là. Il a fait des très belles choses, mais en même temps, il y a un jeu. Le jeu, dans le fond, qui aura propulsé le retour, là. C'était 21-3 ou 24-3 même à ce moment-là. Et Marcus Mariota a lancé une passe directement dans les mains du demi-défensif à la ligne des buts. Le demi-défensif, au lieu de l'intercepter ou de la rabattre, il l'a poussé vers l'avant. Mariota l'a rattrapé et allait marquer le toucher.
C'est
extraordinaire, mais en même temps, c'était une mauvaise passe, soyons honnêtes. C'était pas un beau jeu de Marcus Mariota à la base, au départ.
Sauf qu'il a transformé une mauvaise situation en une bonne parce qu'il est resté alerte.
Et c'est ça, puis là, vu, j'ai l'impression que ce jeu-là, tu sais, dans la vie, des fois, pour faire un long retour, t'as besoin d'un break. Mais le break, ça a été celui-là, parce qu'après ça, de Marcus Mariota, tu l'as dit, ça l'a motivé, je sais pas trop, ça a changé son approche dans le match, peut-être au niveau des choix de jeu aussi, on a commencé à faire plus de zone read, puis de le laisser courir, mais il a fait de très belles choses à partir de ce moment-là.
Et en fin de match, un bloc important en fin de match aussi qui a permis d'aller chercher
incroyable.
Un premier jeu. C'était 22-21 à ce moment-là. Ça a permis aux Titans de conserver le ballon.
Tout un bloc. Donner le coin à Derrick Henry sur une course à contre-courant. Je sais pas si c'était planifié, mais une chose est claire, Marcus Mariota, là, de tous les blocs qu'on a vus dans ce match-là, ça prend le plus beau.
Oui, absolument. Donc, victoire du Tennessee 22-21 sur Kansas City. Puis en soirée, encore une fois, l'équipe sur la route qui l'emporte, mais peut-être moins une surprise compte tenu du peu d'expérience des Rams de Los Angeles. Malheureusement, leur compte de fées s'est terminé en première ronde des éliminatoires, mais pas contre n'importe qui quand même.
Mais c'est absolument pas. Les Falcons, il ne faut pas l'oublier, eux autres sont motivés. Là. Mm-hmm. Ils ont entendu parler toute l'année. Là. Ils ont entendu pendant un an les éliminatoires de cette année parce qu'ils se sont fait, on se rappelle, là, le retour des Patriots. Ils avaient le Super Bowl au bout des doigts. Ils l'ont laissé filer. Et moi, j'aime les Falcons, leur progression cette année. Mm-hmm. On a eu des passages à vide, mais plus la saison avançait, plus les Falcons ont commencé à jouer du bon football, particulièrement défensivement. Et hier, c'était leur défensive, là. C'était de toute beauté de voir la tertiaire jouer à homme avec les receveurs de passe des Rams. Jared Goff essayait de placer ses ballons. Les demi-défensifs jouaient du gros football. On a bien plaqué. Puis t'as parlé de jeunesse. Puis ça, on l'avait dit, nous autres aussi, à RDS, en avant-match. Tu sais, quand t'as une jeune équipe qui a pas beaucoup d'expérience, des jeunes joueurs qui ont jamais vécu des moments aussi importants, mm-hmm. souvent, tu vas commettre des erreurs de jeunesse. Mais sur les unités spéciales, on peut dire qu'il y a eu deux erreurs de jeunesse. Là.
Ouais, ouais.
Cooper, le retourneur, là, c'est un joueur de deuxième année.
Exact.
Et hier, il y a eu de l'air d'un joueur de deuxième année sur deux jeux. Puis ces deux jeux-là ont donné 10 points aux Falcons sur les revirements.
Mm-hmm.
Que, t'sais, c'est quand tu regardes le pointage, 26-13, 10 points sur des revirements, on se rend compte que ça a joué un gros rôle dans la victoire des Falcons.
Et l'attaque des Falcons avec Matt Ryan a contrôlé complètement le cadran. C'est pas toujours significatif, cette donnée-là, mais hier, ça l'a été drôlement.
Bien, c'est sûr que c'était une des clés, parce que les Rams étaient très bons contre la passe, défensivement, mais avaient démontré beaucoup de vulnérabilité contre le sol. Mm-hmm. T'attaques évidemment la faiblesse des Rams lorsque tu cours, on l'a très bien fait. Ce que ça fait, tu l'as dit, c'est que ça contrôle le tempo du match mm-hmm. et le temps de possession. Puis pendant ce temps-là,
et la foule.
Les Rams, Jared Goff, Sean McVay sont sur les lignes de côté puis ils sont en train d'être frustrés parce qu'ils n'ont pas d'opportunité de faire des jeux en attaque. T'sais. Puis vraiment, c'est chapeau au plan de match de Steve Sarkisian des Falcons d'avoir priorisé la course. Et regarde, on a couru quoi 39 fois avec le ballon. On est allé chercher juste 124 verges. Il n'y a pas vraiment eu de longues courses de la part des porteurs. Mm-hmm. C'était tout le temps des 3 verges, 4 verges, 5 verges premier jeu. Donc là, le temps continuait à s'écouler. Puis, à un moment donné, c'est ça qui est arrivé dans ce match-là, c'est que les Rams ont tout simplement manqué de temps.
OK. Alors, donc, victoire des Falcons 26-13 sur les Rams. Espérons juste que les Rams vont apprendre de cette défaite-là, parce que déjà, ils ont drôlement bien progressé depuis l'an dernier. Ils avaient une fiche de 4 victoires, 12 défaites, puis 11-5 cette année. Et là, il faut juste qu'ils progressent un petit peu plus loin en série l'an prochain.
Ils peuvent sortir la tête haute, ça, c'est garanti. Sean McVay, pour moi, est l'entraîneur-chef de l'année. Là.
Exact.
À 31 ans, ce qu'il vient de faire là, c'est absolument hallucinant avec une équipe, comme on l'a dit, qui avait beaucoup de jeunes joueurs. Il y a beaucoup de. L'avenir est très prometteur pour les Rams. Du côté des Falcons, juste rapidement, là, eux autres étaient le sixième à rentrer dans l'éliminatoire. Donc, c'est sûr qu'ils s'en vont jouer probablement si les Eagles. Ils s'en vont jouer les Eagles.
Oui, c'est déterminé, ça, déjà.
C'est-tu la meilleure place pour aller présentement, les Eagles?
Oui.
Tu sais, les Falcons, là, c'est pas gagné d'avance, mais c'est quand même, avec Nick Foles, plus la même équipe.
Exact.
Du côté des Eagles. Ça fait que d'un coup, ça, que les Falcons, là, ils ont pris de la valeur en maudit dans le stock pour aller au Super Bowl.
Oui. Leur code vient de changer à Las Vegas un peu.
Ça, c'est sûr.
Je vous referai une mise à jour dans quelques instants là, du match entre Buffalo et Jacksonville, mais je veux qu'on parle pour l'instant, Bruno, du match qui s'en vient vers 16h40 entre la Caroline et la Nouvelle-Orléans. Ça, c'est intriguant, ce match-là. Deux équipes avec la même fiche, 11 victoires, 5 défaites. Deux corps arrière d'expérience qui s'affrontent. Par contre, il y en a un qui a connu des difficultés au cours des derniers matchs, c'est Cam Newton.
Oui, c'est clair. Puis c'est de valeur pour lui la fin de saison. Il est capable du meilleur et du pire. Hein? Ça a été chaud puis froid, Cam Newton. Et vraiment, si les Panthers sont pour aller causer une surprise, là, il faut que Cam Newton évite les interceptions dans ce match-là. C'est tout si simple que ça. Il va falloir qu'il fasse au moins une couple de gros jeux avec ses jambes si on veut gagner. Parce que de l'autre côté, on a une attaque beaucoup plus dangereuse et équilibrée que celle des Panthers. Là. Soyons honnêtes. T'enlèves Cam Newton et ses jeux, sa faculté d'étirer les jeux, d'aller chercher des premiers jeux alors que le jeu avait avorté.
Mm-hmm.
Et en attaque, on devient pas tellement menaçant, pas tellement explosif. On n'a pas un groupe de receveurs qui est dangereux.
Mm-hmm.
Dans le champ arrière, ça a été. Cam Newton, c'est le meilleur porteur de ballon de l'équipe. Sans dire long sur les deux autres, Stewart et McCaffrey.
Exact.
Fait que c'est pas. Moi, c'est là, je pense, qu'il est le nerf de la guerre. Là. Cam Newton. Si on est capable de le contenir du côté de la défense des Saints, qui est aussi bonne, il faut le dire, là, que celle des Panthers. Au niveau statistique, là, vous irez voir, c'est très comparable. Ben, les Saints devraient normalement gagner ce match-là avec l'attaque qu'ils ont. Là. Ils sont beaucoup plus équilibrés. Drew Brees a eu une saison de MVP. Donc, il a passé sous le radar parce que tout le monde parlait de son duo de porteur de ballon. Fait que lui, il n'avait pas besoin d'en faire autant que dans les années précédentes. Mais si tu regardes les statistiques de Drew Brees, là, je pense qu'il complète 72% de ses passes. Écoute, c'est incroyable, mais il y en a beaucoup aussi qui vont à Alvin Kamara puis à Irvin sur des passes voilées, des passes courtes. Ouais. Puis on va chercher beaucoup de verges après l'attraper. Ça va être. Regarde, moi, je prends les Saints dans ce duel-là. Je sais pas pour toi, là, parce que je pense que les défenses sont aussi bonnes l'une que l'autre.
Oui.
Il y a vraiment une différence dans les attaques.
La logique penche du côté des Saints, effectivement. Écoute, les Saints ont gagné deux fois contre les Panthers cette année par un écart total de 31 points. Cam Newton, tu l'as dit, la clé, ça va être les revirements parce qu'il a lancé 4 interceptions dans les deux derniers matchs et il y a seulement 50% d'efficacité dans les deux derniers matchs.
Oui. Imagine, pas en plus. Là, pense-y. Puis Cam Newton, son problème, souvent, c'est quoi? Quand ça se met à aller mal, ça paraît. Là, il est sur le banc avec sa serviette par-dessus la tête, il y a une phase de bœuf. Ça a un impact sur les joueurs de son équipe, parce que c'est lui le leader.
C'est vrai.
Et, fait que s'il se met à faire sa petite attitude un peu de bébé lala, là, mais que ça serait allé mal, ça pourrait même être une longue journée pour les Panthers. Heureusement pour eux, ils ont une défense qui les garde constamment dans les matchs.
Oui, sauf que la
Kukli puis Thomas Davis, là, c'est du solide.
Oui, ils ont une très bonne défense, les Panthers, contre la course. D'ailleurs, ils ont donné 120 verges et plus seulement deux fois cette année au sol.
Ah ouais.
Mais les deux fois, c'est contre les Saints.
Oui, mais sauf qu'ils se sont fait abuser dernièrement. Oui, exact. Ils se sont fait abuser dernièrement par la passe. Hein. Contre les Bucks, il y a deux semaines, là. C'était pas beau de voir. Je me rappelle bien, je pense que c'était les Bucks qui jouaient contre les Bucks. Je suis tout mélangé dans les matchs qu'il y a eu, mais ce que je sais une chose, c'est que la tertiaire de la Caroline, il y a environ deux semaines, a eu l'air folle, pas à peu près.
Juste
ça, faudrait pas que ça arrive aujourd'hui.
Juste un mot en terminant, Bruno, sur la manifestation amusante qu'il y a eu à Cleveland hier. Les partisans des Browns voulaient célébrer la saison, entre guillemets, parfaite d'aucune victoire, 16 défaites de leur équipe préférée en faisant un défilé autour du stade. Il y a eu quelques milliers de personnes. Moi, je trouve ça extraordinaire comme réaction des partisans.
Ah, c'est extraordinaire, mais c'est quand même une honte, là.
Oui.
Honnêtement. Puis je suis d'accord avec les partisans. Ils n'ont pas le choix parce que c'est la seule façon qu'ils vont avoir un défilé qui a rapport avec leur équipe de football pour un bon moment.
Ouais. Heureusement qu'ils ont
les. Je pas vrai que ça change du tout pour tout là-bas.
Ouais. Heureusement qu'ils ont les Indiens puis les Cavaliers pour leur donner le sourire
Exact,
dans le reste de l'année.
Ouais. Imagine les pauvres Browns, eux autres, 0-16. Puis au moins, ils ont bien des choix au repêchage l'année prochaine. On va voir ce qu'ils vont faire avec.
Ouais. En tout cas, ils ont lancé un message aux dirigeants des Browns, ça c'est sûr. Bruno, merci beaucoup. Puis bon match à 16h30. Pour le plaisir de se reparler la semaine prochaine.
Merci.
Salut.
Bye bye tout le monde. Ciao.